Bonjour chers fidèles d'IDFM, aujourd'hui sur Rendez-vous compte, du rêve, de l'anticipation, une terre inconnue, un presse-citron et même de quoi refaire le monde, rendez-vous compte. Bonjour Valentin.
Bonjour Didier.
Valentin Pringuet.
Oui.
C'est ça? Alors Valentin Valloisien.
Exactement.
Et plus précisément Saint-Loupien.
Depuis une dizaine d'années effectivement.
D'accord, comme beaucoup des invités ici, Saint-Leu, terre de culture. Valentin, donc, oui, une dédicace spéciale et chaleureuse à Sandrine de la librairie L'Acacia, boulevard du Temple près de République, ouverte même le dimanche et les jours fériés. Sandrine, elle sait pourquoi. Voilà. Alors, Valentin, d'abord, écrivain.
Exactement.
Production romanesque.
Principalement des romans, effectivement, oui.
D'accord. Valentin, tu écris sur ton site internet « Je n'ai jamais eu qu'un seul rêve. Depuis que j'ai l'âge de 12 ans, je rêve d'être romancier. » Un rêve devenu réalité.
Un rêve devenu réalité, effectivement.
Alors, de quelle manière? Quelle production? Taux d'anticipation?
Plutôt ce qui me vient à ce moment-là. J'écris de l'anticipation, effectivement, de la science-fiction, des thrillers. Oui. Globalement, je n'aime pas me limiter à un seul genre, effectivement.
Illimité. Et puis, un rêve qui est devenu réalité en 2024, avec la publication d'un roman dont le titre est
Maria 2024.
Voilà, précédé d'un hashtag qu'on ne prononce pas. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire, Maria 2024, à la fois anticipation, mais je dirais qui tombe bien avec le locataire actuel de Washington.
Exactement. J'avais l'urgence de sortir ce livre parce que l'élection présidentielle américaine arrivait. On voyait Trump potentiellement revenir. Il y avait l'espoir que ça ne soit pas le cas, mais j'avais envie d'écrire un livre qui soit de l'anticipation courte, où on essayait d'imaginer comment l'élection pourrait se passer autrement, comment une candidate que personne n'avait vue, qui n'était pas du sérail politique, arrive à s'imposer. Et donc du coup, j'ai voulu raconter ça pour un peu donner, ouvrir les imaginaires sur autre chose.
Voilà. Et alors ce héros inattendu, c'est une femme, Maria.
Mm-hmm.
Alors qu'est-ce qui lui arrive en gros?
Maria, globalement, elle ne s'est jamais intéressée à la politique. Elle travaillait dans une concession automobile du côté de Miami. Elle est en train d'échanger avec des amis dans un bar. Et ils sont en train de boire en discutant et elle se met en colère. Elle a une longue tirade pour montrer sa colère contre le système actuel. Et en fait, sauf qu'elle devient virale. Les gens prennent en vidéo ce qu'elle dit. Et ça a un écho. Et du coup, elle fait une première interview, une deuxième. Et elle se retrouve très vite à être sur le chemin de la Maison Blanche.
Voilà, avec un programme qui est « Dire la vérité ».
Exactement.
Alors ça, en politique, c'est un sacré programme.
Ben oui, et ça pourrait sembler simple, mais en même temps, effectivement, c'est partir en se disant « je vais être transparent sur absolument tout », c'est assez révolutionnaire dans une certaine mesure.
Voilà, surtout que le locataire actuel, président des États-Unis, a fait toute sa campagne sur dire la vérité, mais c'est une contre-vérité, tout le temps.
Dire sa propre vérité, oui.
Voilà. Auteur d'anticipation, de science-fiction, et tu dis hein, sur ton site que tu utilises tes histoires pour questionner et faire réfléchir sur notre société, on vient de s'en rendre compte. Alors, est-ce que la meilleure manière de changer le monde, c'est d'écrire?
En tout cas, c'est celle que j'ai choisie, oui. Et ça part d'un principe simple, c'est que c'est très simple de s'imaginer à quoi ressemble le monde qui va droit dans le mur. On a des récits post-apocalyptiques en pagaille sur toutes nos plateformes de streaming et sur tous nos livres. Et en même temps, quand on demande aux gens à quoi ça ressemble le monde qui va dans la bonne direction, qui est un monde meilleur, personne ne sait se l'imaginer parce que du coup, justement, la fiction ne nous ouvre pas cet imaginaire-là. Et donc je me suis dit, j'en ai marre de ces récits de zombies et j'ai envie d'imaginer un monde où on voilà, imaginer des possibles et inspirer à l'action de cette manière-là.
D'accord. Avec une saga en 7 volumes, alors qu'il y a quand même une particularité, entre autres, c'est disons le titre de la saga qui s'appelle Niti.
Mm-hmm.
Alors je me suis demandé pourquoi Niti, et bien j'ai compris. Alors pourquoi Niti? En 7 volumes.
Parce que chacun des 7 volumes, le nom du livre se termine par Niti. Donc ouais. Le premier, c'était Humanity. Le deuxième, c'est Insanity, Vanity, etc. Jusqu'à Eternity, le dernier qui est sorti il y a quelques mois.
Alors, l'objectif? De la saga.
L'objectif de la saga, c'est de... La saga commence, et désolé pour le spoiler que je vais faire à certains moments, mais...
Il y a 7 volumes, donc...
c'est ça. Mais le livre commence par Humanity, où on suit ceux qu'on abandonne sur Terre. Globalement, la Terre est devenue invivable, et des vaisseaux spatiaux s'en vont chercher une autre planète.
Sur Mars, par exemple, avec Elon Musk.
Exactement. Et en fait, nous, on reste avec ceux qu'on a abandonnés sur Terre, ceux qui nous servent plus à rien et qu'on laisse sur Terre, et sur leur combat pour essayer de survivre, et qui va ensuite donner une grande saga où justement le personnage va finalement réussir à quitter la Terre. Mais en même temps, j'entends bien que le propos pourrait ressembler à ce que je critiquais juste avant de post-apocalyptique, mais en fait, on revient justement, c'est montré comment de ça sort l'espoir et le besoin de retourner sur cette Terre qui est la seule planète sur laquelle on peut vivre aujourd'hui.
Ça rappelle un petit peu la planète des singes.
Belle référence.
Voilà, alors tu écris aussi, depuis le tome 4, hein, Divinity, je sais que je ne pourrai plus jamais m'arrêter d'écrire. Ça fait peur un peu, non? Il paraît que tu écris 365 jours par an.
Exactement. Non, ça fait pas peur si c'est la chose qui donne le plus de plaisir. Et moi, c'est le cas. Je m'amuse jamais plus que quand je suis en train d'inventer une histoire. Et en fait, je l'ai fait, comme tu le disais tout à l'heure, depuis l'âge de 12 ans. Et en fait, j'ai arrêté pendant une période parce que j'avais essayé d'être publié, d'envoyer en maison d'édition. Et les refus, ça m'avait découragé. Et à un moment, je me suis dit, mais... Pourquoi avoir arrêté alors que c'est la chose qui me donne le plus de plaisir? Et donc du coup, je me suis remis à écrire en 2023 et je me suis dit, ok, bah, en fait, j'ai retrouvé le plaisir intact et je me suis dit, il ne faut plus jamais que je m'arrête. Surtout que bah, j'essaye, comme on le disait, d'apporter quelque chose de différent et qui apporte de l'optimisme et de l'espoir. Et je pense qu'on en a plutôt besoin aujourd'hui.
Alors justement, les livres sont parus chez quel éditeur?
Ces livres-là, les livres de fiction sont en auto-édition. Et j'ai fait ce choix-là justement au moment où je revenais vers l'écriture, de me dire je veux pas que ce soit un éditeur qui choisisse pour moi si jamais un livre doit être publié ou non. Donc j'ai publié ces premiers en auto-édition. Là maintenant j'ai des discussions avec plusieurs éditeurs pour la suite de mes livres. On va dire que c'était aussi une période où j'avais besoin d'affiner ma plume et de continuer à apprendre, et donc là maintenant ça m'a servi pour la suite.
Voilà, à la fin de l'émission, on donnera les références pour pouvoir éventuellement acheter des livres en auto-édition. Voilà. Alors quand même, un objectif pour 2040, juste avant de quitter la Terre, un objectif impressionnant.
100 livres?
Oui.
Oui, avoir écrit 100 livres.
Pour l'instant, il reste 14 ans.
Mm-hmm. ça va le faire. Ça va le faire. J'ai dépassé les 25 livres écrits, sauf que... J'ai pas écrit pendant longtemps, donc du coup maintenant sur les années qui restent, si jamais je reste sur le rythme que je me suis donné actuellement,
c'est jouable.
Ça va, c'est jouable.
On refera une émission en 2040 à bord d'un vaisseau spatial et puis on verra, on fera le point.
Avec plaisir.
Livre d'anticipation, de science-fiction on va dire, mais également un thriller et un livre pour enfants. Mm-hmm. Je crois que ça y est, c'est bouclé.
Exactement, terminé d'écrire, là je suis justement en discussion avec une maison d'édition pour cela.
Donc un thriller. Quel thème? Qui est-ce qui est assassiné? Ou alors on met embargo hein, et puis les gens n'auront qu'à...
Ouais. Absolument pas, je peux raconter, il n'y a pas de souci. Ouais. Le titre provisoire, on verra si c'est celui qui reste, mais c'est Red Haven, et c'est le nom d'une ville fictive du Colorado que j'ai imaginée au milieu d'une forêt. Et en fait, dans cette forêt vit une tribu indigène qui a eu presque aucun contact avec la population de colons blancs qui sont arrivés quelques centaines d'années plus tôt. Et en fait, c'est l'histoire de jeunes, d'un groupe d'adolescents qui va dans cette forêt et découvre le corps sans vie d'une petite indigène pendue à un arbre. Et de là, ils se rendent compte que les autorités ne s'intéressent pas à ça, puisque du coup, justement, c'est une indigène et que personne ne cherche vraiment son tueur. Et ces jeunes, ces adolescents décident de se lancer dans l'enquête. Et c'est ça le point de départ du livre. Et c'est aussi... La conversation qu'il y a entre deux civilisations dont l'une est restée connectée aux vivants et qui vivent différemment de nous. Et c'était, voilà, c'est ça que je cherchais à capter dans ce livre.
Voilà, ça revient à notre dernière partie de l'émission tout à l'heure, se reconnecter à la nature avec une personnalité qui, elle, a passé sa vie à être reconnectée. Hein, ça sera un peu plus tard. Et un livre pour enfants, alors ?
Un livre pour enfants, parce que j'en ai deux. Et j'ai une fille qui a aujourd'hui 8 ans et qui adore lire. Et,
c'est bien.
Sachant que son papa était écrivain, elle me demandait, voilà, il y avait une attente de sa part. Et je me suis dit, bah, tiens, je vais écrire un livre spécifiquement pour elle. Donc ça s'appelle Le Dernier Arbre. Et ça raconte l'histoire là aussi d'une petite fille qui, dans un monde, justement, dans un futur proche où tout a été remplacé par la technique et où il n'y a plus besoin d'avoir d'arbres. Et ben en fait, il en existe encore un dernier, et elle va le chercher parce qu'il y a le besoin de guérir son frère. Et il y a, voilà, je ne vais pas rentrer dans je vais pas tout raconter, mais en tout cas, il y a ce besoin de se reconnecter encore. Et je pense que c'est un thème qui revient beaucoup dans mes livres.
Voilà. Alors, comment est-ce qu'on fait pour écrire toute la journée, tous les jours, alors qu'on a des enfants, on a quand même une vie aussi extérieure? Comment on fait? Où est-ce qu'on se met? À quelle heure on commence? Est-ce qu'on mange quand même un peu? Enfin bref, comment on fait?
On mange quand même un peu, et en fait, on s'auto-conditionne à le faire, d'une certaine manière. Moi, j'écris tous les jours, donc du coup, je me suis mis des rituels pour le faire. Et le premier que j'ai fait quand je me suis remis à écrire, c'était qu'il fallait que j'écrive 20 minutes par jour, au minimum. En me disant, parce qu'il y avait ce sentiment que j'arrivais pas à trouver du temps pour écrire, et je me suis dit, bah, en fait, je vais commencer par 20 minutes. Et si j'arrive 20 minutes, bah, peut-être que je pourrais faire un peu plus, peut-être que... Et en fait, le fait de faire 20 minutes... Bah, ça m'a libéré, parce que du coup, on trouve toujours 20 minutes dans une journée. Et donc, j'ai commencé à... Et je l'ai fait en utilisant la musique. Je sais qu'on va parler musique ensuite. Pour moi, la musique, c'est très important. Et donc, du coup, j'associe un album à chaque livre que j'écris. Et je n'écoute que cet album. Et en fait, le fait est qu'au bout d'un certain temps, entendre les premières notes de musique d'un album me met dans les conditions. Et mon corps sait que c'est le moment d'écrire ce livre. Et donc, du coup, je me mets à écrire sans m'arrêter à partir de là.
Voilà, c'est un peu pavlovien là comme méthode, mais ça marche apparemment. Alors, tu écris à la main ou tu écris sur ordinateur? Comment tu fais?
Sur ordinateur.
Ouais. Voilà. Alors justement, tu parlais de musique. Alors, nous sommes toujours bien sur IDFM à l'écoute de ce rendez-vous compte où nous recevons Valentin Pringuet, qui est écrivain, qui écrit ses récits d'anticipation pour questionner et faire réfléchir sur notre société. Alors Valentin, tu as demandé à ce qu'on écoute un titre d'un groupe islandais. Alors je te laisse prononcer le nom du groupe, le titre de l'album et celui de la chanson.
Avec plaisir. Voilà. Le groupe s'appelle Sigur Rós. L'album n'a pas vraiment de titre qui est prononçable. Parce que c'est
ça que je te laisse te débrouiller avec.
C'est une parenthèse ouverte et une parenthèse fermée. Donc les gens l'ont sous-titré parenthèse ou parenthésis en anglais. Les chansons n'ont pas de titre non plus d'ailleurs. Donc du coup, c'est la chanson numéro 4 de l'album, Untitled 4, pour ceux qui. Voilà, dans le milieu, c'est comme ça qu'on l'appelle. Et j'ai choisi cette chanson parce que. Comme je disais, la musique est très importante pour moi. J'en écoute du matin au soir et je ne peux pas imaginer une journée sans musique. Et cette musique-là, elle m'inspire. Elle a un côté planant. Elle a un côté. Et pour le coup, les paroles ne sont pas dans une langue connue. Le chanteur a inventé une langue et utilise en fait sa voix comme un instrument. Et je trouve ce côté expérimental et ce côté très intéressant.
Voilà d'ailleurs un album qui a été enregistré dans une piscine désaffectée dans la banlieue de Reykjavik, hein, puisque c'est un groupe islandais. Pardon. Et les paroles sont écrites en volenska, c'est-à-dire une langue, comme tu l'as dit, inventée par leader du groupe à partir de sonorités proches de l'islandais et qui veut dire von, c'est espoir, et islenska, c'est islandais. Je te laisse redire le titre de la chanson.
La chanson s'appelle Untitled 4 sur l'album de Sigur Rós, parenthèse.
Extrait. Voilà, nous nous sommes toujours bien sur IDFM. Nous retrouvons Valentin Pringuet, auteur de romans d'anticipation, mais aussi porteur d'un projet à la fois ambitieux et original, Terra Incognita.
Exactement.
Alors dis-nous tout sur cette terre inconnue.
Bah, j'ai été journaliste pendant quelques années pour des médias en ligne. Et en fait, je me suis rendu compte qu'à chaque fois que je rencontrais des personnalités, les gens étaient fascinés par cette personne et me disaient j'aurais tellement voulu être là, j'aurais tellement voulu être présent. Et en fait, moi, de la manière dont j'avais de le faire, j'étais très dans le storytelling, essayer de projeter les gens dans ce qui se passait dans l'interview. Mais je me rendais compte que ce n'était pas ça qu'ils voulaient. Ils voulaient être présents, physiquement présents dans l'interview. Et quand j'ai dû créer mon propre média, en fait, je me suis dit, être journaliste, ça m'a ouvert énormément de portes. Est-ce que je peux pas ouvrir cette porte à mes lecteurs? Et donc, à chaque fois que j'ai commencé à chaque fois que je faisais une interview, je demandais à mon interviewé, est-ce que je peux emmener des lecteurs avec moi, même si c'est 10, même si c'est, même si c'est 5, voilà, est-ce que je peux emmener des lecteurs avec moi? Et à chaque fois, j'ai eu un retour positif, et donc j'ai commencé à emmener mes lecteurs en prévenant, tel jour à telle heure, on se retrouve chez un tel pour l'interviewer. Et en fait, l'idée, à la base, moi, c'était juste ça, c'était pas plus ambitieux que ça, mais sauf que le fait d'emmener des lecteurs, et justement de les traiter pas comme un public, mais comme des personnes qui vont co-animer, qui vont poser leurs questions et qui vont participer activement, bon, en fait, ça a amené une dimension nouvelle. Et en fait, à une époque où on parlait de Trump tout à l'heure, à une époque où on a une défiance envers les médias, qu'ils nomment fake news à longueur de journée, en fait, le fait de faire le journalisme en présence des lecteurs, ben, en fait, on cassait cette défiance. Et donc, du coup, j'ai décidé de continuer, d'aller toujours plus loin. Et donc, du coup, j'ai commencé à faire des comités de rédaction de manière ouverte, où on décidait ensemble du sujet des prochains magazines. Et comme ça, bah, on a continué. J'ai toujours expérimenté de nouvelles manières de faire du journalisme. J'ai même été jusqu'à écrire des articles en live où les gens pouvaient lire l'article pendant qu'il était en train de s'écrire et pouvaient poser des questions et l'article se créer en fonction de ça. Voilà. L'idée, c'était justement d'imaginer une nouvelle manière de faire du journalisme. Là aussi, parce que on a besoin d'espoir et d'optimisme et que les médias d'aujourd'hui ne l'apportent pas forcément.
Sauf IDFM.
Exactement.
Pourquoi le titre Terra Incognita?
Terra Incognita, bonne question. Parce que au moment où je l'ai lancé, c'était le moment où je me lançais en tant qu'indépendant et j'avais envie d'explorer de nouvelles terres, de nouvelles choses. Et en fait, ce côté explorateur, ce côté essayer d'aller chercher des choses qu'on ne connaît pas, des choses même si c'est des sujets qu'on ne connaît pas, ça me parlait. Et du coup, c'est un peu le mouvement qui m'a porté pendant ces 10 dernières années, c'est de justement aller vers ce que je ne connais pas et essayer des choses. Et c'était ça aussi, quand je parlais de côté expérimental du média, c'était tenter de nouvelles choses, aller vers une terre inconnue.
Alors, Terra Incognita a été fondée en 2017. Ça fonctionne toujours?
Il a été en pause pendant très longtemps, parce que le Covid est arrivé, parce que c'était un magazine papier que je voulais de qualité et donc qui coûtait très cher à faire. Et donc, du coup, au moment où le Covid arrive, on allait entrer en maison de la presse, en kiosque. Avec le Covid, c'était juste un choix économique compliqué. Donc, je l'avais mis en pause et j'ai fait des choses encore en digital pendant une période, mais ça c'était pas exactement ce que le projet en tant que tel, donc je l'avais mis en pause, ce qui m'a permis d'ailleurs de faire le projet avec Jane Goodall, dont on va parler juste après. Mais maintenant, je suis en train d'y revenir, je suis en train de relancer Terra Incognita dans une autre manière, une autre façon de le faire, mais toujours avec cette volonté d'emmener des lecteurs avec moi sur des interviews et d'échanger ensemble sur un sujet. Cette fois-ci, ça sera à propos de livres que je peux écrire. Ce sera pas sur un magazine, il y aura pas un magazine papier forcément à chaque fois. Mais du coup, l'idée, c'est en tout cas de continuer à utiliser ce prétexte d'un magazine ou d'un livre pour faire des interviews et se rencontrer et ensemble apprendre de nouvelles choses.
Et alors, le projet Dear Future, je te laisse le dire en anglais. Dear Future.
Dear Future. Wow. Effectivement, là aussi, il est né du Covid où pour ne pas perdre ma santé d'esprit, j'avais besoin de travailler sur autre chose que Terra Incognita. J'ai voulu imaginer un média qui s'affiche comme une œuvre d'art, un média qu'on met dans l'espace public, dans la rue, dans le lobby d'une entreprise, dans n'importe où il y avait possibilité de découvrir un message différemment. Parce que justement, il y avait ce constat du fait que les médias sont de moins en moins lus. Donc du coup, je me suis dit, en fait, si on le met, on le transpose dans la rue, peut-être que ça peut trouver un autre public. Et donc, du coup, j'ai imaginé un média qui s'affichait dans la rue avec trois grands panneaux où je travaillais avec des artistes, des écrivains, des journalistes. Et l'idée, c'était de voilà, partager un message d'une manière différente. Et le premier, c'était justement avec Jane, où j'ai travaillé avec un artiste anglais qui a fait une magnifique illustration qui vient capter l'attention du lecteur. Et ensuite, sur les deux autres tableaux, l'idée, c'était d'avoir à la fois une nouvelle qui fait rentrer par le storytelling, une histoire, justement, une belle histoire, et en même temps parler de pourquoi Jane est si importante et parler de sa Dream Team. Mais ça, je pense que je vais en parler juste après.
Voilà, juste après un deuxième titre musical. Donc, Valentin, tu as demandé à écouter Harmony
Corinne de Stephen Wilson,
voilà.
Qui est un artiste britannique qui lui aussi expérimente beaucoup. Lui, c'est du rock progressif et il a un groupe qui s'appelle Porcupine Tree qui existe depuis plus de 20 ans. Et là aussi, sa musique m'inspire beaucoup dans le sens où il tente des choses. Le dernier album qu'il a sorti, il n'y a que deux morceaux sur ce nouvel album qui font chacune 20 minutes. Et il y a cette volonté de repousser un peu les limites, de tester des choses. Et voilà, c'est un article qui me parle beaucoup. On écoute Harmony Corinne de Stephen Wilson.
Un extrait. Bien sûr, IDFM, nous retrouvons Valentin Pringuet, alors auteur de romans d'anticipation qui font réfléchir sur notre monde, porteur de projets journalistiques, dont tu viens de parler, Terra Incognita par exemple. Alors, à part écrire, ce qui était un rêve d'enfant qui s'est concrétisé largement, un autre rêve s'est réalisé sous la forme d'une rencontre avec une personnalité exceptionnelle, dont tu as donné le prénom, Jane, icône de la préservation animale et messagère de la paix à l'ONU. Alors, dis-nous un petit peu qui est cette Jane et dans quelles circonstances tu l'as rencontrée.
Ah oui, bah alors, Jane Goodall, donc, que je connais depuis que je suis tout petit. Moi, je l'ai rencontrée d'abord dans des documentaires animaliers où on découvrait son travail avec les chimpanzés, notamment. Et en fait, moi, j'ai toujours été fasciné par son parcours. Et au final, c'est quelqu'un qui, a réussi à partir en Afrique pour... observer les chimpanzés à une époque où quand elle est revenue avec sa découverte majeure qui était le fait que les chimpanzés savaient créer et utiliser des outils, on ne l'avait pas cru tout simplement parce que c'était une femme et qu'une femme toute seule dans la jungle qui fait des observations, personne ne la croyait. Au final, ils ont envoyé un homme sur place prendre des photos et des vidéos et ce qui s'est passé, c'est qu'il s'est rendu compte qu'effectivement, elle avait raison. Et en fait, ensuite, son parcours, c'est devenu celle d'une activiste aussi qui a beaucoup fait pour les animaux, que ce soit les animaux sauvages ou de laboratoire, où elle a réussi à faire bouger les lignes. Et elle avait 91 ans quand elle est décédée il y a quelques mois. Et elle ne s'est jamais arrêtée de travailler pour les animaux. Et son leitmotiv, c'était quand on lui demandait ce qu'elle faisait, quel était son job, elle disait que son job, c'était de donner de l'espoir. Et en fait, je trouve que c'est... on en parlait tout à l'heure, comme quoi c'est quelque chose dont on a beaucoup besoin. Et en fait, elle avait ce côté où elle racontait constamment des histoires et elle embarquait avec ça. Et ça m'a aussi inspiré dans le fait de reprendre l'écriture, comme on en parlait tout à l'heure. C'était cette rencontre avec Jane qui m'a fait rendre compte que... Il fallait que je m'y remette.
Voilà, Jane, donc, qui a milité pour l'Anima Niti et pour l'Huma Niti aussi. Alors, dans quelles circonstances tu l'as rencontrée quand même? C'est assez incroyable. Et qu'est-ce que ça a donné après?
Avec plaisir, pour parler de ça. Je l'ai rencontrée sur un événement. Elle est descendue de scène après un moment presse où justement j'avais emmené des lecteurs de Terra Incognita à l'époque. Et je lui ai serré la main. On a parlé pendant absolument 5 secondes top chrono. C'était la première rencontre, mais je suis resté en contact avec la directrice de sa fondation en France, qui s'appelle Galit Kenan, qui est une personne formidable, toujours avec une énergie aussi communicatrice. Et en fait, on est resté en contact et je lui ai dit que j'avais envie de faire un projet avec Jane. Je lui ai parlé de ce projet Dear Future dont on a parlé juste avant, de créer un média qui s'affiche comme une œuvre d'art pour partager le message de Jane. Elle m'a dit c'est génial, ok, il faut qu'on trouve la manière de le faire. En chemin, on a trouvé un éditeur qui était intéressé pour publier la version livre de cette rencontre, qui est du coup un livre chez Actes Sud qui s'appelle Refaire le monde avec Jane Goodall. Et en fait, ma volonté dans cette rencontre, c'était de me dire comment se reconnecter au reste du vivant. Et en fait, on a longuement parlé pendant une conversation. Et au terme de la conversation, je lui ai demandé le nom de sa dream team, les gens qu'elle voudrait mettre autour d'une table pour refaire le monde sur ce sujet-là. Et elle m'a cité une dizaine de personnes. Et ensuite, je suis parti dans 25 heures d'interview avec toutes ces personnes-là pour justement les questionner sur ça. Et en même temps, on ne va pas se mentir, c'était aussi un prétexte pour moi d'apprendre le plus sur le parcours de Jane au travers du regard de gens qui la connaissent le mieux, de l'intérieur. Et ça a donné des anecdotes croustillantes et inédites qu'on n'aurait pas pu imaginer sur Jane, qui était vraiment... Plus j'apprenais à la connaître, plus je me rendais compte à quel point c'était vraiment une personne extraordinaire.
Alors, par exemple, quelques membres de la Dream Team de Jane, peut-être qui t'ont plus marqué dans les interviews ?
Bien sûr, bien sûr, il y en a plein, il y en a tellement. Il y a Mac Hall, qui est un descendant d'une tribu Cherokee aux États-Unis, et qu'on parlait tout à l'heure de mon livre Red Heaven qui se passe auprès d'une tribu, et je pense que ce livre n'existerait pas si je n'avais pas eu cette rencontre, par exemple. Et là aussi, c'était fascinant, dans un livre qui parle de se reconnecter au reste du vivant, de parler avec quelqu'un dont la culture, c'est de ne jamais avoir été déconnecté. Après, il y a quelqu'un comme Craig Foster qui m'a beaucoup, beaucoup marqué. Craig Foster, il a gagné l'Oscar du meilleur documentaire en 2021 avec le documentaire qui s'appelle La sagesse de la pieuvre, My Octopus Teacher. Et en fait, dans ce documentaire, on le voit interagir avec une pieuvre parce qu'il retourne la voir tous les jours pendant un an, et il se retrouve à avoir une connexion avec cette pieuvre. Après, on fait toujours de l'anthropomorphisme, mais en tout cas, il y avait une relation qui était forte, qui s'est nouée. Et en fait, moi, quand j'ai vu ce documentaire, j'ai eu l'impression d'avoir un deuxième moment Jane Goodall, où justement, Jane, elle est arrivée à une époque où on considérait que le chimpanzé, le singe, était loin de l'humain. Elle a montré cette proximité via la création d'outils, mais via plein de choses, en fait, qu'on n'était pas si loin du chimpanzé. D'ailleurs, il y a une phrase, quelqu'un qui avait... elle est connue comme la femme qui a changé la définition du genre humain, parce qu'à l'époque, justement, les scientifiques désignaient les humains comme étant capables de créer des outils. C'était ça leur différenciation. Et en fait, quand Jane est arrivée, on a été obligé de changer ça. Et en fait, je trouve ça intéressant dans le sens où ensuite, en même temps, aujourd'hui, avec le recul, on se dit chimpanzé humain, la continuité était évidente d'une certaine manière. Mais avec une pieuvre, c'est l'animal le plus proche d'un alien qu'on puisse imaginer. Et pourtant, quand on voit le documentaire, j'ai eu ce deuxième moment Jane, où on se rendait compte que, waouh, en fait, on n'est pas si loin du reste du vivant, et ça m'a fasciné. Donc c'est une rencontre fascinante avec Craig, qui, d'ailleurs, petite anecdote, parce que du coup, j'ai pris des habitudes de Jane de toujours raconter des histoires, donc du coup il faut que je raconte celle-là, quand j'ai voulu prendre rendez-vous avec lui, je lui envoie un message pour dire voilà, Jane veut que tu fasses partie de sa dream team, est-ce que et là il me dit je lui propose des dates, est-ce que vers telle période ça te va, il me fait en fait je fonctionne pas en agenda humain, moi je travaille avec les marées, je travaille avec les migrations, je travaille, donc mon agenda n'est pas humain. Et je me suis dit que pour parler de quelqu'un qui se reconnecte avec le vivant, quelqu'un qui ne travaille, qui n'utilise pas l'agenda humain, c'était un bon premier pas, on va dire, dans cette direction-là. Mais après, je pourrais continuer avec beaucoup d'autres personnes qui m'ont fasciné, mais je pense que le mieux, c'est de lire le livre, qui est Refaire le monde chez Actes Sud.
Voilà, alors Valentin, notre émission se termine. Comment est-ce qu'on peut te joindre, avoir connaissance de tes publications, de tes démarches ?
Sur mon site internet valentinpringuet.com, il y a possibilité de s'inscrire pour recevoir les informations sur mes prochains livres. Mais après, sinon, sur tous les réseaux sociaux, je suis présent et c'est possible de me joindre de ce biais-là.
Voilà, merci beaucoup Valentin. Peut-être qu'on se retrouvera bientôt, d'ailleurs, dans le calendrier des marées et des pieuvres.
Avec plaisir.
Ce serait pas mal. Voilà, c'était Didier. Je donne rendez-vous à tous les auditeurs la semaine prochaine, même heure, même adresse, pour un nouveau numéro de Rendez-vous Compte sur IDFM, évidemment. Et en attendant, je vous retrouve aussi dimanche matin dans la matinale de Mehdi pour ma chronique Nec plus Ultra, consacrée aux expressions issues du latin et de la mythologie grecque. À bientôt.